Bonjour à tous, Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. C'est un plaisir de vous retrouver pour une dernière fois cet été. On s'est retrouvés tous les jours depuis le mois de juin et ça a été vraiment un bonheur de pouvoir vous accompagner pendant cette période estivale avec questions d'actualité. On se retrouve la semaine prochaine pour tous les vendredis de l'automne et de l'hiver avec Le Monde d'aujourd'hui, 11h30 à midi. Mais d'ici là, c'est un dernier numéro de questions d'actualité format estival. Aujourd'hui, on reçoit Yann Roche, un habitué de l'émission. On va revenir sur la Chine, les crimes contre la communauté ouïghour, les possibles crimes maintenant quasiment avérés avec le rapport des Nations Unies, du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et ensuite, nous reviendrons sur la politique interne de la Chine et les bisbilles qui commencent à y avoir, surtout sur les questions économiques du pays. Bonjour Yann.
Bonjour Julien.
Avec toi, nous allons revenir sur les Ouïghours et la Chine, et en grande partie parce que la semaine dernière, un rapport des Nations Unies, du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, présidé par l'ancienne présidente du Chili, Madame Bachelet, a été rendu à propos des Ouïghours et des exactions que la Chine commettrait contre la communauté, même maintenant par rapport au rapport contre la communauté Ouïghour. Et on va pouvoir revenir avec toi sur toute cette problématique. Donc, qu'est-ce que la communauté Ouïghour, quelles sont les exactions? Qu'est-ce que le rapport a pu expliquer et comment aussi ça joue généralement sur la politique chinoise à l'interne comme à l'externe? Car en ce moment, il y a beaucoup de questionnements à propos de la politique chinoise et aussi de sa vitalité, ou plutôt de sa force. Est-ce qu'elle est aussi forte qu'on ne le pense, surtout sur un point de vue économique et politique? On pourra en revenir en fin d'entrevue. Remettons-nous en contexte sur le sujet principal, les Ouïghours. Qui sont les Ouïghours?
Les Ouïghours sont un peuple turcophone qui habite dans l'ouest, dans le grand ouest chinois, dans une province qui s'appelle le Xinjiang. Il y en a dans d'autres parties du monde, mais principalement ils sont basés donc au Xinjiang. Et ils ne sont pas culturellement ils ne sont pas rattachés à l'ethnie Han, et surtout ils sont musulmans en très large majorité. Et donc c'est un peuple qui n'a été rattaché à la Chine que assez tardivement,
pendant
un bon bout de temps. Oui, et puis surtout il y a eu à un moment donné, cette zone a été appelée le Turkestan oriental à deux reprises au XXe siècle, une fois dans les années 30 et une fois juste avant d'être intégré à la Chine maoïste qui venait d'être fondée en 1949. Et donc la relation a toujours été très tendue entre les deux peuples. On peut parler évidemment de tensions religieuses, surtout qu'en plus le régime communiste chinois évidemment n'est pas du tout ouvert à la religion en tant que telle. Mais en même temps, il y avait déjà des tensions depuis le début entre les deux. Et ça a dégénéré progressivement. Et puis on pourrait répondre très très longuement, mais en 2009, il y a eu des émeutes dans la capitale Urumqi de la part des Ouïghours qui s'en sont pris au Han, donc la majorité ethnique, et qui ont servi au mois de juillet, ça a servi par la suite ces émeutes. Exactement. Et donc, ça fait en sorte que, depuis ce moment-là, le Xinjiang est vu par la Chine, est présenté par la Chine comme un risque sécuritaire. Et ça explique pas mal d'éléments sur lesquels on va revenir par la suite et dans le discours chinois.
Et c'est un peu une. Il y a beaucoup de différentes régions qui sont des régions qui, au départ, étaient plus indépendantes, qui ont été rattachées de force ou de gré à la Chine maoïste et qui, plutôt, avant, étaient des territoires commerciaux. Historiquement, même, on prenait l'Empire Qing, mais toute cette région du Turkestan et des grands déserts et autres, c'était des régions où l'empire des Han, même à l'époque, il y a quelques millénaires, pour remettre en contexte, à l'époque de l'empire Tang, c'était des régions qui étaient alliées commercialement sur les parcours de la route de la soie. Donc il y a toujours eu un lien avec la Chine, mais c'était plus un lien commercial d'alliance, de vassalisation, mais pas d'intégration et d'assimilation tel qu'on peut le voir depuis les maoïstes.
Oui, bien en plus, vous avez mentionné les routes de la soie. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette zone-là est très très loin de Beijing, à la fois culturellement et géographiquement. Mais en même temps, même si ça peut sembler extrêmement loin, ça se situe sur un carrefour, cette fameuse route de la soie depuis le XIIIe, XIVe siècle. Et d'ailleurs, ils en sont fiers, les Ouïghours, de dire que Marco Polo est passé par là, notamment par la ville de Kashgar, qui est une ville un peu mythique sur la route de la soie et qui est dans le sud du Xinjiang. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'y aller en 2016 et mes amis Ouïghours me disaient que Marco Polo avait découvert un plat ouïghour qu'il a ensuite ramené en Italie et qui est l'ancêtre de la pizza.
Ah, intéressant.
Donc, les ouïghours, ce sont les ouïghours
qui ont inventé la pizza.
Inventé la pizza et qu'il aurait indiqué à Marco Polo qu'il aurait ramené en Italie.
Et maintenant, on va dire que tu es chanceux d'y être allé en 2016, car la région est une région fermée et haute. C'est une région, par exemple, si vous êtes alpiniste, il y a eu l'un des 12 plus grands sommets est dans cette région et on ne peut plus y aller, ne serait-ce que même un Chinois doit demander une autorisation pour pouvoir aller dans cette région, une autorisation sécuritaire. Donc on en est à un type de... du fait des différentes émeutes qui ont lieu en 2009, plusieurs moyens de répression ont pu être mis en place et ce sont ces moyens de répression qui nous intéressent. C'est moins une répression que certains assimilent et que même beaucoup, même la grande majorité des gens et des observateurs, qu'ils soient juridiques comme communautaires, assimilent à des crimes contre l'humanité. Quels sont ces moyens de répression ?
Ben, principalement, c'est des internements dans des camps qui ont été identifiés grâce à des images satellites et qui, au début d'ailleurs, ces camps ont été niés par le gouvernement chinois pour ensuite expliquer comme étant des centres de formation professionnelle. On va y revenir là-dessus. Surtout, bon, ces moyens sont beaucoup de... Il y a des... Et d'ailleurs, le rapport de l'ONU le mentionne, il y a des tortures physiques, mais c'est beaucoup, beaucoup axé surtout sur les tortures mentales, c'est sur une
rééducation.
Un exil vers ces... La plupart des camps sont dans la partie sud, dans les oasis autour de Kashgar, dans ces eaux-là, et beaucoup de Ouïghours viennent du nord et ont été déportés dans cette zone-là. Mmh. J'en connais justement qui ont disparu du radar.
Donc c'est des déplacements.
En étant envoyés dans cette zone-là.
Donc ça fait de l'épuration ethnique. Déplacement de population et épuration ethnique, un peu façon de parler.
Déplacement de population, épuration ethnique, pour faire attention, parce qu'ils sont pas... Ils ne sont pas tués physiquement.
L'épuration géographique.
Oui, et il y a aussi, on reviendra sur l'utilisation du mot génocide d'ailleurs, il y a aussi beaucoup une limitation de la possibilité de pratiquer la religion, mais ça existait déjà depuis un certain temps, on pourra y revenir si vous voulez dans quelques temps.
Ouais.
Mais donc c'est vraiment l'idée, et d'ailleurs le gouvernement chinois ne se cache pas tellement de cette partie-là et le justifie en disant il y a des problèmes de terrorisme et d'extrémisme religieux au sein de la communauté ouïghour, et donc nous les aidons à se débarrasser de ces tendances extrémistes. Et en plus, on leur apprend le chinois, puisque leur langue n'a rien à voir avec le chinois, c'est pas le même alphabet. Et donc, on les aide à s'intégrer dans la communauté nationale. Voilà.
Et donc, sur ces questions de centres et autres, pour revenir sur ces centres, on a pu voir, il y a eu beaucoup de documentaires qui ont été faits, dont un qui avait été présenté à Deauville, si je me souviens bien, dans les deux dernières années, qui avait été aussi diffusé à Montréal par le centre FI. Donc, dans ces documentaires, on pouvait voir différentes populations ouïghours déportées dans ces centres de d'apprentissage professionnel, qui sont plutôt des centres de rééducation, où on a des dizaines de personnes entassées dans la même cellule, où ces derniers sont après placés dans des journées d'apprentissage où on leur apprend la langue, on leur apprend un peu à se départir de leur culture d'origine et s'intégrer plus à la communauté nationale, et donc sa communauté nationale chinoise. Et donc ça fait revenir sur la question de génocide, car oui, il n'y a pas d'épuration ethnique au sens où on va tuer ces personnes, de la tuerie de masse telle qu'on a pu le voir en Europe, mais il y a la question pour beaucoup, c'est l'autre question, l'autre aspect du génocide, si le génocide n'est pas physique, il peut être aussi culturel. Donc on veut nier la culture ouïghour ou la faire disparaître au profit d'une culture han en acculturant limite de force ces populations ouïghour. Qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce qui a pu être avancé dans ce rapport à ce propos-là?
Ben justement, c'est que il y a depuis un certain temps des lanceurs d'alerte à différents niveaux qui sont identifiés par le gouvernement chinois et ses alliés, et on pourra y revenir là-dessus aussi, comme étant des pantins des États-Unis dont l'objectif est de dénigrer la Chine, de s'occuper des affaires internes et d'utiliser la calomnie pour faire valoir un petit peu le point de vue américain anti-chinois. Donc à ce niveau-là, ce qui se passe avec ce rapport, et je pense que c'est absolument l'élément fondamental, c'est que on a une justification, une validation de choses dont on avait parlé depuis un certain temps, et on ne peut plus parler, même si Beijing le fait encore, de simples calomnies contrôlées par les États-Unis. Il y a une validation par les Nations Unies.
Et aussi sur cette question de validation des Nations Unies, c'est que ça vient d'une institution que les États-Unis ont du mal à accepter la légitimité. Donc, on ne peut même pas parler de trucs du point de vue américain, et d'autres, une institution qui a un manque total de légitimité en ce moment, quand on sait tout ce qui s'est passé au niveau de qui a le droit de vote, qui est présent au Comité des droits de l'homme actuellement. Donc, ça vient quand même d'une institution qu'on ne peut pas taxer d'américanisme primaire.
Oui, effectivement. Puis en plus, vous l'avez sans doute vu aussi, il y a l'histoire de Michelle Bachelet, donc l'ancienne présidente du Chili, qui finissait son mandat et qui s'est arrangée pour le sortir juste à quelques minutes
totalement.
De la fin de son mandat,
oui.
Pour s'assurer que le rapport ne serait pas tabletté par son successeur. Et il y a eu, paraît-il, de ce qu'on a pu savoir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent à nous, le commun des mortels, il y a eu des tensions et des pressions diplomatiques, notamment par la Chine depuis un bon bout de temps, pour éviter qu'il sorte. Et Michel Bachelet aurait fait en sorte qu'il sorte, mais juste à temps et de manière à ne pas pouvoir être bloqué. Il y a eu vraiment des jeux de coulisses très très importants, parce qu'on sait l'ampleur et la portée que ça pourra avoir.
C'était assez intéressant, parce que le soir où le rapport est sorti, donc je travaillais au pupitre au Journal de Montréal, on a la dépêche qui sort de ce rapport, et pour avoir fait un peu de diplomatie internationale et sachant tout ce qui s'était passé, j'étais en mode, je me retourne vers mes collègues, et j'étais en mode un peu, elle l'a fait, il en faut quand même de la force pour faire ça, alors que pendant une semaine, la Chine, chaque jour, faisait des dépêches pour dire, pour un peu forcer, on avait en sous-main les alliés de la Chine au sein du Conseil des droits de l'homme, comme l'Arabie Saoudite et d'autres pays, qui étaient en mode, non, n'écoutez pas si de quoi sorte, ça sort et ça valide, alors que on sait très bien que cette institution est totalement indépendante, ça valide fortement tout ce qui a pu être dit dans les dernières années à propos de cette situation pour les Ouïghours. Mais quel va être l'effet de ce rapport maintenant qu'il est sorti? Parce que ça a été validé par une institution indépendante, ça met encore plus le focus sur les exactions chinoises, mais souvent, ces rapports sortent, mais il n'y a jamais de suivi à part un blâme moral. Qu'est-ce que tu penses que ça peut amener?
Alors, c'est une excellente question et je ne voudrais pas avoir l'air d'être trop oiseau de mauvaise augure ou pessimiste. Disons que l'ONU, et puis on l'a mentionné aussi parce que c'est quelque chose, les Nations Unies, rappelons-nous que Donald Rumsfeld a quand même appelé ça un machin, et que les Américains lui sont fidèles quand ça fait leur affaire,
ça,
et puis quand ça fait pas leur affaire, ils sont contre. Mais en même temps, il y a toujours eu un problème, non pas tant de légitimité, mais de faire appliquer ces décisions ou ces points de vue. Oui, ces recommandations. Là, il faut être quand même relatif. Et d'ailleurs, je pense que la communauté ouïghour, le Congrès mondial ouïghour est assez déçu parce qu'il sait que les chances que ça donne quelque chose de concret sont très faibles. Il va y avoir, là simplement, Beijing ne peut pas remettre vraiment le couvercle sur la marmite, mais en même temps, il s'arrange pour, et puis sa stratégie est très très claire. La critique est extrêmement virulente. On a en plus rejeté ça sur les Américains. L'idée, ce sont des affaires internes de la Chine. Ne vous en mêlez pas. Alors au début, on dit que c'était de la calomnie, de la même manière qu'au début, on disait qu'il n'y avait pas de camp. Ensuite, on a dit que c'était des centres. Là, maintenant, il va y avoir un nouveau discours qui va sortir. Encore une fois, sans doute axé contre les Occidentaux.
C'est ça.
Et en allant chercher un peu les alliés de Beijing, les alliés naturels ou les alliés économiques, les intéressés, mais les risques les possibilités que ça entraîne un changement de la situation chez les Ouïghours sont quand même assez faibles. Alors, vous avez parlé un peu au tout début de la possibilité qu'il y ait des changements à l'interne dans le gouvernement. On sait qu'à l'automne, Xi Jinping va être soumis à une première, à un premier test politique, mais même s'il y a plus de contestations qu'on peut l'imaginer un peu en Occident ou qu'on peut l'espérer depuis un certain temps, parce qu'il avait quand même, il tenait la Chine dans un camp, dans une main de fer, avec une main de fer. Là, il y a des contestations, mais elles sont un peu du tonneau des contestations en Russie, ou peut-être même moindres, puisqu'on a moins de manifestations potentielles, mais les chances pour les opposants d'obtenir quoi que ce soit sont assez faibles. Et un petit point juste par rapport à ça, pour terminer, excusez-moi, c'était le fait que les Ouïghours, moi, de ce que j'ai vu lors de mon voyage, ils sont pas particulièrement bien apprécié par les Han, que les Han soient pour ou contre le gouvernement, ils n'ont pas une très bonne presse auprès des Han du reste du pays. Donc, avoir un soutien à l'extérieur, c'est peut-être même c'est plus un pire. Côté négatif, c'est ça. Parce qu'ils ne sont pas déjà très, très appréciés à l'intérieur du pays.
C'est ça. Et que les Chinois, les Han, qu'ils soient proches ou pas du gouvernement communiste, sont quand même assez nationalistes et assez fiers. Donc, d'avoir l'extérieur, l'étranger qui vient un peu les titiller, ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Et pour revenir un peu sur les contestations de Xi Jinping, c'est au-delà de toutes ces questions-là, il y a deux choses à se dire. Sur la simple question des Ouïghours, c'est se dire, si on dit que l'Ukraine, ça se calmera quand Vladimir Poutine ne sera plus là. Est-ce que les Ouïghours, ça se calmera quand Xi ne sera plus là? Parce que l'intensification de la répression a commencé depuis le règne de Xi Jinping. Ce qui amène à une deuxième question que je pourrais te poser à propos des autres crises qu'on ne voit pas trop, mais qui sont quand même assez présentes en Chine, dont la crise immobilière qui est en train de massacrer un peu le marché économique interne chinois. Est-ce que c'est là la source des grandes tensions qui pourraient toucher Xi et son régime, quand on voit des petits épargnants qui ne peuvent plus retirer leur épargne des comptes en banque? Et certaines vidéos, on voyait des chars qui protégeaient des banques de manifestations d'épargnants qui voulaient aller juste retirer un peu d'argent.
Oui, c'est plus à ce niveau-là qu'il est en danger. À l'échelle des cas comme Taïwan ou les Ouïghours ou la mer de Chine, ou le Tibet, ce sont des éléments sur lesquels il a bien joué la corde du nationalisme et il est assez peu, disons, déstabilisé par ce qui se passe à l'extérieur. Au contraire, il a très très bien orienté le discours de manière à ce que ce soit considéré comme des manœuvres anti-chinoises. À ce titre-là, il n'y a pas vraiment de possibilité d'avoir un support très très fort dans la population. Totalement. Par contre, lorsqu'on touche au... Rappelons-nous que depuis un certain temps, la fameuse croissance chinoise qui est si impressionnante, elle est basée donc sur la classe moyenne progresse, qui est de plus en plus riche. Et donc, si d'un seul coup, on coupe cet élan, là, on va créer, en touchant au portefeuille des gens, le risque d'une contestation qui serait bien plus vigoureuse et qui n'aurait pas de lien avec des aspects idéologiques ou du moins associés à des groupes qui finalement intéressent peu les Han dans leur quotidien.
C'est ça, et souvent en plus c'est souvent comme ça que les contestations ont réussi à détruire un peu des régimes en Chine. C'est à chaque fois que les classes populaires qui commençaient à se construire, à être plus riches, sont devenues plus fortes, d'un coup tout s'effondrait, que ce soit à cause de problèmes de famine, de récolte ou des problèmes financiers. C'est là où le régime s'est effondré. On se souvient, si tu prends une analyse historique, quand tu analyses l'histoire de la Chine, je trouve ça fascinante. Les Ming, ça s'est effondré de la sorte. Les Qing, ça s'est effondré de la sorte. Est-ce que le Parti communiste s'effondrera? Là, c'est plus compliqué. Mais c'est toujours très intéressant de voir que dès que ce sont des petits problèmes internes, un peu des problèmes qu'on pourrait retrouver, qui sont source de tension même dans nos pays occidentaux, que c'est à partir de ce genre de problème que le régime chinois vacille.
Il y a deux choses à ce niveau-là. Déjà, il faut quand même ne jamais oublier que la Chine, en tant que telle, avec sa longue histoire, n'a pratiquement jamais connu la démocratie.
C'est ça.
C'est un premier élément qu'on a du mal à réaliser. Puis, ce que vous mentionnez par rapport à la grogne populaire, ça m'amène à me souvenir un petit peu ce qui s'est passé avec la Révolution française.
Ouais.
C'est un petit peu ça qui a renversé des siècles de monarchie. C'est une situation économique. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là que ça pourrait jouer, mais peut-être pas tout de suite, parce que la situation est plus difficile que prévu, mais le discours est quand même très très fortement contrôlé.
Totalement, il est très sécurisé.
Oui, et puis une des choses qui est vraiment intéressante, il y a vraiment à deux niveaux que le gouvernement chinois joue. Je préfère préciser le gouvernement chinois que la Chine, parce que c'est peut facilement être considéré comme... Oui, tout à fait. Mais il y a vraiment la question qu'on a d'un côté la Chine qui continue à se développer et à essayer d'atteindre certains objectifs, et puis il y a aussi celle qui veut quand même, tout en rejetant, disons, la gouvernance mondiale, les grandes organisations, soi-disant totalement contrôlées par les États-Unis, elle essaie quand même, d'une certaine manière, de valider son discours à l'extérieur. On a beaucoup d'influenceurs à l'extérieur occidentaux qui interviennent, qui prennent des positions pro-chinoises. On a des si vous allez sur Internet, si vous connaissez certaines applications comme CGTN ou China Daily, Global Times, on a des médias chinois qui transmettent le message du gouvernement en anglais, en français, donc pour nous, parce que sinon, c'est pas du tout pour la population chinoise. Et donc, ils s'assurent de contrôler ce discours à l'extérieur aussi, parce que c'est important pour eux quand même.
Donc, on déteste le système, on déteste le jeu tel qu'il est actuellement, mais on veut quand même l'utiliser, car il sert.
Tout à fait.
Et c'est une dernière petite question avant de se quitter, assez rapide. On a appris cette semaine que Xi et Poutine vont se rencontrer en fin de semaine, début de semaine prochaine. La guerre en Ukraine stagne, les Russes ont du mal à payer, à trouver des nouveaux obus, sont obligés d'en acheter à la Corée du Nord, et l'Ukraine est en train de préparer une véritable contre-offensive. Qu'est-ce que tu penses que cette rencontre va amener?
Ben, je sais pas qu'est-ce que ça donnerait d'être dans la salle entre les deux. Je me demande quelle est leur relation à ce niveau-là, qui un petit peu a le haut du pavé. Parce qu'on a la sensation que la Russie et son comportement actuel pénalise un petit peu certaines des mesures diplomatiques internationales de la Chine. D'un autre côté, il y a l'organisation de coopération de Shanghai dans laquelle ils sont des partenaires très très forts et qui essaient de contrebalancer les organisations considérées comme pro-occidentales. Ouais. Ils peuvent pas. C'est un mariage de raison où les deux partenaires s'aiment pas particulièrement, mais ils peuvent pas divorcer. Alors, c'est un peu la sensation que j'aurais. On va voir ce que ça va donner. Ils vont sans doute s'arranger pour savoir qui aura les plantes et qui aura le chien.
C'est ça. Et qui aura la bonne position dans la photo. Au moins, ça fera une belle photo. Hop, hop. En Ouzbékistan, en territoire neutre, mais qui est quand même assez proche des deux pays. L'un pour les nouvelles routes de la soie, l'autre parce qu'ancien membre du bloc soviétique. Merci.
Il y a beaucoup d'Ouzbéks au Xinjiang aussi. C'est assez intéressant. Ils sont des Kazakhs, des Ouzbeks, des Kirghizes. Il y a beaucoup de gens des steppes de l'Asie centrale qui sont présents aussi au Xinjiang. Il y a des minorités très, 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 très nombreuses.
D'où encore plus d'importance pour la position où ce sommet aura lieu. Merci beaucoup, Yann, d'avoir répondu à nos questions. Yann Roche, de la chaire Raoul Landurant. C'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission et tu reviens quand tu veux pour discuter de ça.
Un gros merci. Bonne journée.
Merci à toi.
Au revoir.
C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité format estival. À la semaine prochaine, vendredi 11h30 pour Le Monde d'aujourd'hui. D'ici là, vous retrouverez Jean-Philippe Trottier la semaine prochaine pour Questions d'actualité normale. Il vous revient dès lundi midi 15, soyez au rendez-vous. Et quant à moi, je vous remercie de nouveau de l'écoute que vous avez pu avoir pendant tout l'été, des beaux commentaires que vous avez pu recevoir. C'était toujours un plaisir de vous offrir ces contenus. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, vous pouvez aussi me lire dans le Journal de Montréal et m'écouter en rattrapage sur le site de Radio VM, Questions d'actualité pour tout ce qui est format estival, Le Monde d'aujourd'hui pour tout ce qui est Le Monde d'aujourd'hui. Et tout est maintenant rassemblé au même point, la page balado Julien Discute, où tous les contenus audio sont disponibles sur tous vos formats streaming, Spotify, Apple Podcast et autres. Bonne journée.